to your place. Vous écoutez la radio francophone d'Auckland, Amuse-Gueules.
Après un nouveau dimanche en notre compagnie.
On a loupé le début, je crois.
Ah,
désolé.
T'as loupé tous mes kia ora et mes good evening avec le super accent.
C'est pas passé live.
Oh, voilà. Donc je disais, bonsoir, kia ora, good evening et bienvenue sur Amuse-Gueules, la radio francophone de Nouvelle-Zélande, pour un nouveau dimanche en notre compagnie. Alors, je suis Alix et aujourd'hui je suis en bonne compagnie. Je suis d'abord avec Sarah.
Hello.
Bonsoir Sarah.
Bonsoir tout le monde.
Et je suis avec Max à la technique. Bonsoir.
Salut Alix, salut Sarah.
Comment est-ce que vous allez aujourd'hui, en ce charmant dimanche?
Excellent, il fait très beau, il fait chaud.
Tout va bien.
Tout va bien, c'est l'été.
Super. Et en plus, on a un super sujet, puisque on va discuter un petit peu. La dernière fois en fait, que j'étais à la radio, j'ai discuté avec Else après, et je m'étais dit qu'au final, je finis toujours par parler de théâtre quand je viens ici. Moi, j'y peux rien, c'est ma passion, c'est mon dada. Mais aujourd'hui, on va sortir un petit peu de ma zone de confort et on va parler de cinéma. Bon, un petit peu, hein. Pas trop.
Un petit peu.
Mais bon, et on est bien entourés pour discuter cinéma aujourd'hui puisque vous avez tous les deux participé à des productions et à des films.
Oui,
n'est-ce pas ? C'est exact.
Bon, du coup, j'ai très envie d'en apprendre plus sur votre vie artistique, mais avant ça, on va peut-être se passer une petite musique.
Mais ça, c'est une bonne idée.
Ok.
Allez, Max, c'est toi.
Qu'est-ce que
tu veux
pour commencer? Un petit Diabolomante.
Allez, Diabolomante.
Allez, en plein dans les souvenirs.
Ouais.
Allez, c'est parti.
Dans tes classes de lycée, il y a tes rêves et tes secrets. D'amour et de tendresse, des mots de femme que tu caches et qu'on condamne.
Ça nous met dans l'ambiance. Je pense qu'on va passer beaucoup, beaucoup de musique liée au cinéma aujourd'hui. puisqu'on est dans le thème. Alors, si on revient à notre sujet du jour, qui est assez vaste, la production de films, on va peut-être commencer par un petit tour de table. Est-ce que ça vous dit de vous présenter pour les gens qui ne vous connaîtraient pas et de nous dire un petit peu à quoi vous avez participé? Sarah, est-ce que tu veux commencer?
Ben allez, c'est parti. Je m'appelle Sarah. Je suis actrice et je travaille aussi de temps en temps dans le département artistique en tant que art assist. En fait, j'assiste le directeur artistique. Comment je suis venue à ça? Ben en fait, tout simplement, je suis venue au. J'ai toujours aimé tout ce qui était théâtre, cinéma. Je voulais en faire quand j'étais gamine et ado. Et puis bon, ben après, la vie va son cours. Je me souviens, au lycée, je me revois dire à ma prof principale que je voulais être actrice. Elle m'avait dit « Ah, oh, ben dans tes rêves, ma belle », ou un truc comme ça. Voilà. Et puis après, ben voilà, on oublie parce qu'on se dit que c'est pas vivable. Enfin, c'est pas un projet de vie.
Mmh. On m'avait dit la même chose à l'époque, beaucoup d'appelés, peu d'élus.
Exactement.
C'est pas totalement faux, remarque.
C'est pas totalement faux, mais c'est pas tout à fait vrai non plus.
Okay, on en parlera plus tard, je pense.
mais en fait, un jour, bon, après des années plus tard, voilà, je suis venue vivre en Nouvelle-Zélande et je suis passée un jour devant une agence de figurants. Mm-hmm. Et ils avaient un petit tableau à la sortie, enfin à l'entrée de l'agence, qui disait, ben, on recherche des nouveaux visages, quoi. Rentrez pour plus de renseignements. Je suis rentrée et puis, ben voilà, je me suis inscrite.
Et
tout simplement, c'est très très simple. Il suffit de vraiment si ça vous intéresse, je vous conseille vraiment de commencer si vous êtes intéressé par le cinéma et par le théâtre, notamment par le cinéma et la télé, inscrivez-vous dans une agence de figurants.
Mais alors ils font pas de sélection? Bon,
ça dépend. Il y a certaines sélections, oui, mais la plupart du temps ils sont quand même contents d'avoir un maximum de visages et de couleurs de peau, de couleurs de cheveux. Voilà, il y a toujours tout un tas de choses que les directeurs de casting vont demander. Et plus il y a de variété sur les books en fait des agences, mieux c'est, parce que ben ils peuvent proposer, mettre en avant des acteurs, quoi.
Mm. En fait, c'est comme une agence de recrutement pour ce milieu, finalement.
C'est comme une agence de recrutement, ouais, tout à fait. Et en fait, l'avantage, c'est que de commencer par là, c'est que vous n'avez aucune responsabilité sur le plateau. Vous êtes figurant, vous faites ce qu'on vous dit de faire. Point barre. Par contre, ça vous permet d'espionner ce qui se passe. et puis, de savoir qu'est-ce que c'est qu'un acteur principal, un acteur secondaire. Qu'est-ce qui se passe derrière la caméra? Qu'est-ce qui se passe dans le département artistique? Qu'est-ce qui se passe du côté de la production? Ouvrez grand les yeux. Apprenez. Vous allez aussi apprendre l'étiquette sur le plateau, qui est très très importante. Et puis voilà. Et puis après, ben, vous vous lancez et puis c'est tout, quoi. Souvent, vous rencontrez des gens aussi avec qui, sur les plateaux de tournage, vous rencontrez des gens où vous allez en faire des amis. Et puis, c'est des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Donc après, vous allez être connu, recruté pour court-métrage, telle pièce de théâtre, voilà, quoi.
Super. Alors, tu nous as dit plein de choses que j'ai vraiment très envie d'approfondir avec toi, notamment l'étiquette de plateau, ça m'interpelle beaucoup. Mais avant ça, on va finir le petit tour de table. Max, est-ce que tu veux te présenter également pour les gens qui ne te connaîtraient pas?
Oui. Je m'appelle Maxime. Je suis. J'ai été sur Auckland depuis presque 7 ans maintenant. Mm-hmm. Et je commence à faire la vidéo ici à Auckland. Bon, j'ai toujours aimé ce qui était cinéma. Et puis, comme je suis un peu ingénieur de formation, j'ai toujours envie de savoir comment on fait les choses.
Ouais, ça aide.
Et puis, je travaille beaucoup avec les ordinateurs aussi. Donc. Tout ce qui est maintenant tout se fait avec les logiciels et les ordinateurs, donc forcément ça m'a attiré aussi. Du coup, bah, j'ai commencé premier film, je suis vidéaste semi-professionnel, on va dire. Mm-hmm. J'étais amateur, puis je commençais à faire plus des mariages, des soirées, des choses comme ça. Je commençais à gagner ma vie, commence à payer les factures.
au moins le matériel.
Le matériel, exactement. Encore, j'ai pas tout payé. Mm-hmm. À côté d'avoir un boulot à plein temps. Et puis voilà, au fil en aiguille, on apprend. Maintenant, avec YouTube, c'est facile d'apprendre sur Internet, trouver de la documentation, comment on fait les choses. Et puis, avec de la passion, on apprend, quoi. Puis après, comme Sarah disait, tu vas sur des bateaux de tournage, tu fais ce qu'on appelle runner, c'est-à-dire tu vas chercher des trucs, ramener, et tu commences en bas de l'échelle et puis tu apprends comment ça fonctionne et puis petit à petit.
C'est fou, hein. Même le principe du stage marche aussi dans le monde du cinéma finalement.
Exactement, oui.
C'est comme ça qu'on engrange l'expérience en faisant des petits trucs et en regardant. Mais alors, vous avez l'air tous les deux d'être très adeptes du on apprend en faisant. Du coup, ça me pose question parce qu'il y a aussi dans ce monde beaucoup d'écoles qui apprennent les métiers du cinéma, les métiers de la réalisation. Il y a des écoles qui font de l'acting for screen, des choses comme ça. Donc, vous apparemment, ça n'a pas été votre parcours ni à l'un ni à l'autre. Est-ce que vous avez une opinion sur ce genre de formation pour devenir.
Moi, si j'ai un conseil à donner à ceux qui veulent débuter, c'est premièrement, inscrivez-vous dans une agence de figurants. Et deuxièmement, une fois que vous êtes dans votre agence, renseignez-vous auprès de l'agence parce qu'il y a souvent, très souvent, tout le temps en fait, en particulier, des cours qui sont donnés. Que ça peut être des cours d'un week-end, ça peut être des cours qui vont durer 10 semaines, voilà, à raison d'une fois par semaine, ça peut être des cours qui vont durer une année entière. D'une façon générale, c'est très bien d'apprendre au moins les bases.
D'accord.
Et notamment si on veut travailler. C'est vrai que au théâtre aussi, hein, il y a des techniques particulières et tout qui sont complètement différentes de ce qui se passe devant une caméra. Mais il y a des choses qui ne s'inventent pas et qu'on doit bien apprendre. Par exemple, quand on travaille devant une caméra, il y a vraiment des techniques à savoir. Ça s'apprend. Ça s'apprend et il y a des profs merveilleux.
Super. Et en fait, pour toi, ton expérience d'apprentissage, tu l'as faite plus par une agence qu'en cherchant toi-même des cours.
Oui, en fait, quand on est en agence, et notamment quand on est débutant dans les agences de figurants, ils nous recommandent vraiment de s'inscrire à un cours que très souvent, ils dispensent eux-mêmes. Ils invitent un enseignant ou une enseignante à venir pour quelques semaines. Et ils encouragent fortement les nouvelles recrues, et comme les anciennes hein, d'ailleurs, à suivre ces cours-là, de façon au moins à apprendre les bases de comment se comporter devant une caméra ou sur une scène. Quoi.
C'est un petit peu dans leur intérêt aussi, hein,
bien sûr.
Parce qu'ils ont intérêt à avoir des bons acteurs.
Une agence, c'est un business, hein, de toute façon.
Tout à fait.
Après, oui, je pense en tant qu'acteur. Enfin, je fais aussi de l'acting, comment on dit en français.
De l'art dramatique.
De la comédie.
Laissez-moi passer, je suis comédienne. Ouais.
Après, ouais, voilà. Après, si tu veux avoir des meilleurs rôles et tout ça, évidemment, il faut prouver que tu puisses jouer la comédie et être un bon acteur aussi. Si tu fais figurant, évidemment, n'importe qui peut être figurant.
Bien sûr.
Si tu veux commencer à faire des choses plus poussées. Tu vas passer des auditions et forcément il faut avoir la technique et être capable de jouer la comédie.
Ouais, et c'est pour ça, n'hésitez pas aussi quand vous êtes vraiment figurant en fond d'écran, même flou à la caméra, donnez le meilleur de vous-même. Parce que de toute façon, ça ne passera pas inaperçu. Et quelqu'un va de toute façon remarquer que, dis donc, le petit figurant là-bas, il n'est pas si mal que ça, quoi. Et on va peut-être vous approcher, peut-être, parce que ça arrive assez régulièrement. Tout compte fait, toi là, tu veux pas venir un peu plus près, viens te poser un peu plus près de la caméra, comme ça on va te voir.
Et tu gagnes en temps d'exposition,
bien sûr,
en reconnaissance,
etc. Et de fil en aiguille, on se retrouve avec trois mots à dire, puis une phrase, et puis trois phrases, et puis avant qu'on le sache, on a un rôle, quoi.
C'est beau.
Oui, c'est très motivant.
Non, mais c'est vrai, ça fait un petit peu American Dream, finalement, de se dire que tu commences tout simplement en bas de l'échelle, en faisant, et si t'es motivée.
Par la petite porte. Oui, mais voilà. Ouais. Et il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué, c'est que dans le métier d'acteur, c'est pas nécessairement les plus talentueux qui réussissent, ce sont ceux qui s'accrochent. Et qui, il faut quand même, il faut du travail, et il y a un certain talent au départ. Mais j'ai remarqué aussi que c'est pas nécessairement ceux qui ont un talent fou qui finissent par percer. Ce sont ceux qui s'accrochent et qui ne prennent pas non pour une réponse, quoi, en fait.
Oui, parce que les portes sont tellement fermées de base que si on n'est pas déterminé, on n'arrive à rien.
Ouais, c'est sûr, tu as passé des tas d'auditions avant d'avoir un rôle.
Ça, on m'avait dit aussi, voilà.
C'est ce qu'on m'a dit, je n'ai pas fait tant que ça. Mais...
Le prof de caméra, c'était un directeur de casting, et il nous avait dit, ne le prenez pas personnellement quand vous n'êtes pas retenu pour une audition. Les trois quarts du temps, bon, il avait peut-être exagéré, je sais pas, mais il avait dit, vous passerez 60 auditions avant de décrocher un rôle.
Et là encore, le parallèle avec le monde du travail est flagrant, puisqu'on envoie combien de CV avant de décrocher
mais
un
c'est vrai,
travail.
Bah exactement.
Ouais, et puis pour une audition, c'est complètement différent, parce qu'ils cherchent un profil type, le réalisateur a une vue de ce qu'il cherche, ou même physiquement, c'est pas que t'es mauvais, c'est que juste t'as pas le look correspond. S'il cherche quelqu'un de 40 ans et que t'en as 25, forcément,
ah bah, s'il
pas
cherche
marcher,
une Scandinave de 40 ans et que tu es Zimbabwéenne de 20 ans, voilà, c'est réglé.
C'est déjà le tri à l'entrée. Et toi, Sarah, par exemple, quand tu passes des castings, est-ce qu'on t'a donné un type de rôle? Est-ce que t'as l'air de décrocher plus souvent des rôles dans un certain type ou stéréotype ou pas du tout?
Ben, en fait, dans mon agence, je suis typée, on va dire, comme étant hispanique et Middle East.
Voilà. D'accord.
Mais bon, bien que ce soit pas du tout mes origines, quoi. Enfin, bon, mon père est portugais, mais Middle East, c'est pas du tout moi, quoi. Et pourtant, bon, voilà. Et en fait, on vous met dans une case physique, peu importe votre culture ou votre ethnie à l'origine, quoi. Voilà, si vous êtes blond aux yeux bleus, vous irez très certainement dans la case scandinave, quoi.
C'est incroyable ça quand même, parce que est-ce que tu penses que c'est justifié pour tous les rôles finalement?
Non, et c'est ça qui est bien, je trouve, parce qu'il y a certaines productions qui ont une idée absolument très 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 précise de la du genre de d'acteurs qu'ils veulent. Et puis il y en a d'autres, ils sont très ouverts et ils s'en fichent bien que ce soit une femme maori ou pakea ou qu'elle ait un accent français ou qu'elle soit d'origine africaine. Ils s'en fichent. Ce qu'ils veulent, c'est de trouver la personne qui colle avec le rôle.
Ouais.
Voilà. Et j'ai décroché un ou deux rôles comme ça, alors qu'au départ, je m'étais dit, c'est même pas la peine de me présenter parce que c'est pas du tout ce qu'ils cherchent, quoi.
Ouais.
Et puis, ben, voilà, à la fin de l'histoire, ben, j'ai eu le rôle parce que le directeur de casting a décidé, ben, voilà, c'est ça.
Mais c'est fou, c'est une histoire que j'entends souvent quand je discute avec des amis comédiens. Ils me disent, mais si tu plais au directeur de casting, on s'arrange toujours. Ils trouveront toujours une manière de te faire rentrer dans le rôle, en fait.
Oui, c'est vrai. Et puis si tu leur plais vraiment et que tu ne rentres pas dans ce rôle-là, ils s'arrangeront de toute façon pour te refaire venir, pour te réauditionner dans un autre rôle.
C'est ce que disait notre prof de théâtre. Il disait, tu passes jamais une audition pour le... Enfin, tu passes une audition pour ton prochain boulot. Hein. Parce que, comme tu dis, le directeur de casting va te repérer et puis il sait que si un jour il a besoin de toi, il va se rappeler.
Oui. Et les directeurs de casting, en fait, ils gardent les fiches de tous les gens qu'ils auditionnent.
Et c'est un petit monde aussi. Donc, ce directeur de casting, tu le reverras peut-être
Ah, très certainement.
Sûrement. Surtout en Nouvelle-Zélande.
Oui.
Sur Auckland.
Il n'y a pas tant de production que ça à Auckland, que ce soit au théâtre ou au cinéma. J'imagine que c'est quand même un monde assez petit et fermé. Bah, la preuve, notre prof de théâtre dont tu parlais, Max, Sarah, tu as joué dans un film avec lui.
Oui, c'est vrai.
C'est un tout petit monde, finalement.
Oui,
un acteur qui jouait dans notre court-métrage aussi.
Ah oui, c'est vrai, oui.
C'était le... Ben, oui, d'ailleurs, c'était le rôle principal dans le court-métrage de Max. C'était Joseph. Et il était aussi le rôle principal dans le long-métrage dans lequel j'ai joué, oui.
Voilà, donc finalement, c'est un petit monde. Et il faut essayer et il ne faut pas se... Faut pas se laisser abattre.
Alors c'est l'avantage, mais c'est aussi l'inconvénient, parce que si on se conduit mal, et ben ça se sait très vite. Et ça parle beaucoup. Ouais. On se fait très vite une réputation. Ouais. Et c'est notamment l'importance de l'étiquette de plateau, quoi. Ben, quand on est sur le plateau, on se tait, on fait pas de bruit, on coupe son téléphone. On ne prend pas de selfie, on ne le poste pas sur Facebook.
Ouais.
Ça, j'ai déjà vu sur une série télé il y a 2-3 ans de ça. Une figurante qui était dans mon groupe de figurantes, en fait. C'est la première fois et la seule fois que j'ai vu quelqu'un se faire virer d'un plateau.
Waouh, parce qu'elle avait pris un selfie.
Parce qu'elle prenait des selfies et elle les postait séance tenante sur Facebook. C'est un no-no absolu. C'est une production, c'est top secret.
Oui, j'allais dire, c'est pour des questions de propriété intellectuelle.
C'est pour des questions de propriété intellectuelle et de confidentialité. Quand on est quand on rentre dans une agence, même de figurant, hein, même si on n'est pas, si on est le petit figurant dernier en flou dans le fond de l'écran, on signe de toute façon une clause de confidentialité. Normalement, on n'est même pas censé en parler à nos maris, à nos enfants, à nos parents, à nos frères et sœurs. C'est top secret. Bon, les trois quarts du temps.
Attention, on est à la radio. Fais attention à ce que tu dis.
Coupe
mon micro. Je vais te couper.
Non, les trois quarts du temps, on raconte deux ou trois anecdotes à nos familles, mais on leur dit en général ce qui se passe. Mais surtout, on ne rend rien public, quoi. Jamais.
Oui, surtout Facebook. Je sais, même Facebook. Certains films, ils changent même le nom du film.
Oui.
Ils mettent un nom. Je sais que Cloverfield, quand il filmait, genre à New York, ils changeaient le nom du film.
Oui.
Parce que s'il y avait des gens qui passaient dans la rue, ils pouvaient leur dire, tu sais, c'était le film. Sans savoir ce que c'était. Quoi. Ouais. Pour éviter de.
Ah oui, quand on fait des scènes en public, prendre un faux nom pour des raisons de confidentialité. C'est incroyable.
Oui.
Ouais. Ouais, donc c'est un milieu qui est super secret finalement.
Ah, c'est très secret quand on va, par exemple, quand on va dans des entrepôts pour tourner en intérieur, quoi, en studio, il y a aucun moyen de savoir que s'il y a un film qui est tourné là, quoi.
Mm-hmm.
C'est, ben, je suppose que ça tu l'as vu aussi, hein, Max, les sets, c'était ce qui m'avait marqué, moi, c'était Evil Dead à l'époque. C'était dans un grand entrepôt où j'ai tourné dans le quartier. Je me suis dit, mais c'est où? Ils m'ont envoyé où, quoi? Et jusqu'au moment, en fait, où je me suis rendu compte, bah, c'est là, c'est bien là. Mm-hmm. Mais il n'y a rien qui te dit à l'extérieur, on tourne Evil Dead ici.
Ouais.
Ouais, c'est marrant, ils pourraient faire un code quand même pour que les figurants ne se perdent pas. Parce que j'imagine qu'il y a des codes. Bientôt.
En général, il y a des codes, mais voilà, ça, c'est quelque chose que on finit par comprendre quand, au bout de quelques temps qu'on fait de la figuration ou qu'on fait un peu de tournage, quoi. Sur la route, il y a des panneaux spéciaux qui font qu'on devine que c'est par là. Mais c'est vraiment. C'est un parcours du combattant.
Oh, c'est fou, ça fait loge maçonnique. Mais
ah oui, mais carrément.
Je pourrais t'écouter raconter pendant des heures ce genre d'anecdote. J'adore ça. Mais bon, bref, peut-être une question supplémentaire pour vous deux. Je sais que, bon, visiblement pour vous, la production de films, c'est un peu une passion et c'est quelque chose qui vous motive, etc. Mais rumor has it, vous ne faites pas ça à plein temps. Donc j'aimerais bien savoir en fait à quoi ça ressemble d'avoir une vie d'acteur ou de personne qui est derrière la caméra ou qui fait de la post-prod, etc. Et comment est-ce qu'on le concilie avec sa vie normale, on va dire, et comment est-ce que ça marche pour vous?
Pour moi, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps, enfin quelques années, mais je suis pas encore, je fais pas énormément de production.
Mm-hmm.
Et donc ça me prend du temps, mais c'est pas... Après, voilà, je pense, vu que j'ai un boulot à plein temps et que j'ai un salaire qui me permet de vivre, j'ai pas besoin de me passer plus de temps à essayer de chercher plus de boulot. Après, si tu fais ça en freelance, enfin, c'est un boulot freelance, comme tout boulot freelance, tu dois chercher du boulot, faire des contacts, te créer un réseau, et c'est comme ça que petit à petit, tu trouves du boulot.
Mm.
Mais forcément, quand t'as un boulot plein temps, bah, ça devient difficile de faire ça, donc. Et donc, du coup, pour mon cas, bah, c'est le week-end et le soir.
Et est-ce que c'est quelque chose qui te pose problème? Est-ce que tu voudrais en faire plus? Ou est-ce que le fait que ça soit, je veux pas dire un hobby parce que c'est une profession aussi, mais le fait que ça soit plutôt quelque chose que tu fais à côté, ça te frustre un peu peut-être ou pas du tout?
Oui et non. Enfin, d'un côté, j'aimerais bien faire plus et avoir le temps de faire mes projets. Parce que quand j'ai des projets, tu fais ça le soir, le week-end, bon, tu rentres du boulot, t'as pas forcément envie de te mettre à bosser encore toute la soirée et tout le week-end.
Oui.
Des fois, t'as envie de faire...
Tu passes une nuit sans sommeil si le projet est vraiment passionnant.
Voilà. Des fois, t'aimes bien avoir des loisirs aussi. Même si c'est un peu du loisir. Et d'un autre côté, t'as un boulot temps plein. Donc, si je quittais pas mon boulot, ça serait difficile. Enfin, pas d'un moment, forcément. Donc, t'as l'avantage du boulot, du salaire qui tombe tous les mois et l'inconvénient de, bon, tu fais pas toujours ce que tu veux. Donc c'est certain. Bon, après, c'est la vie d'artiste, ça, c'est...
Moi, je suis tout à fait d'accord avec Max. En fait, moi, j'étais, parce que je le suis plus, j'étais enseignante en petite enfance, donc j'étais à plein temps dans des écoles maternelles et tout. Et puis, ben, c'est le même problème, quoi. Voilà. Enfin, l'avantage, c'est aussi l'inconvénient. C'est que, ben, on bosse à temps complet, on a le salaire qui va avec. Mais, ben, c'est le temps qu'on n'a pas pour pour notre passion des films, quoi. Et il y a quelques années de ça, en fait, je me suis mise, j'ai commencé à travailler en tant que remplaçante. Donc en fait, c'était moi qui faisais un peu mon emploi du temps. Je décidais quand est-ce que j'enseignais et je décidais, voilà, quand on m'appelait par exemple un matin pour me dire allô, est-ce que tu veux faire un remplacement aujourd'hui? Ben, j'avais pas de tournage ou rien du tout. Je me suis dit ben oui, allons-y, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que à part quand de très loin, quand tu décroches une pub qui paye bien, le reste du temps, bon ben c'est pas grand-chose, quoi.
Et tu disais que tu étais prof de petite enfance, donc ça veut dire que là, tu as tout plaqué pour vivre à fond la vie d'artiste ou pas du tout ?
En fait, j'ai créé ma petite entreprise qui n'a rien à voir avec le théâtre. Hein. C'est, voilà, c'est une création de cosmétiques naturels. Mais bon, ça ne me permet pas d'en vivre encore, quoi. J'en suis encore au stade où je lance l'entreprise, donc ça marche plus ou moins bien, mais ça me permet pas, j'ai pas encore de salaire dessus, quoi.
Oui.
Donc c'est vrai que c'est pas particulièrement évident de tourner et de donner autant de temps que je le voudrais au monde du théâtre et du cinéma, quoi.
Oui, mais surtout en étant entrepreneur,
oui,
on compte pas vraiment ses heures.
Voilà,
surtout
exactement.
Au début.
Ouais.
Bon, t'as pas choisi de te simplifier la vie,
hein. Jamais.
Après, pour ajouter, je pense que acteur, c'est encore plus difficile d'avoir du boulot constamment, quoi. Après, si tu travailles dans tout ce qui est film, tu peux arriver à trouver. Bon, il y en a qui en vivent tous les jours. Donc, une fois que t'es vraiment dans le domaine et que les gens te connaissent, c'est le problème, c'est qu'il faut créer un réseau, en fait.
Ouais.
Quand les gens te connaissent, ils te rappellent à chaque fois qu'ils ont besoin de quelqu'un. Donc.
Ils te rappellent, mais je pense que t'as raison sur la partie timing. C'est que quand t'es acteur, forcément, tu tournes sur des journées normales où tu travaillerais. Alors que si tu fais du montage ou de la vidéo, etc., comme tu disais. Mmh. Éventuellement, tu peux le mettre sur tes soirées ou sur tes week-ends, et il y a personne qui dépend de toi. C'est toi qui fais le travail, en fait.
Exactement.
Donc, oui, mais il y a toujours des dates limites à respecter aussi.
Ouais.
Et c'est ça le problème,
c'est vrai,
aussi.
C'est vrai.
Pour les techniciens et les artistes, quoi. Enfin, quand je dis les artistes, c'est le département artistique. Ils ont toujours quelque chose. Vous avez toujours quelque chose qui doit être prêt pour telle date, parce que le film doit sortir telle date, ou qui doit être prêt pour être envoyé en festival avant telle date. Ou...
Ouais.
Donc, en fait, c'est pas.
Mais je cherche pas à minimiser les souffrances de Max. Hein.
Ah
attention.
Non,
il y a pas de mal.
Bon, ok. Donc, je suis assez admirative, honnêtement, de voir que vous réussissez à concilier deux choses à temps plein. J'aimerais bien parler un petit peu plus avec vous après de comment ça se passe quand on tourne un film et qu'est-ce qui se passe après et tout. Est-ce que vous voulez qu'on se passe une petite musique avant ?
Ah mais oui.
Allez, c'est parti. Un petit Rabbi Jacob.
Ah oui, super. Rabbi. On reste dans l'ambiance.
Allez, c'est parti.
on n'a pas dansé dans le studio, mais le cœur y était quand même.
Presque un cœur. C'est un de mes films préférés, je dois avouer.
Ah, c'est vrai. Ah, c'est peut-être pour ça que tu nous l'as suggéré. Alors,
oui.
On t'a pas vu venir. Hein. C'était bien amené. Bravo. Bon, super. Bon, donc on était en train de parler de films, de production de films, de la vie d'acteur. Et du coup, bah, on va peut-être rentrer un petit peu dans le vif du sujet, de ce à quoi pensent tous les gens à qui on parle de films, c'est-à-dire le tournage. Même si on sait qu'un film, c'est beaucoup plus que ça, hein, et on en parlera après. Mais du coup, toute la partie où on dit moteur action et toutes les choses qu'on voit dans les bonus de tous les DVD du monde. Bon, je suis peut-être un peu has-been là, parce que plus personne n'a de DVD. Mais
si, moi.
Si. Ah, t'as encore des DVD?
Ah, je suis encore au DVD, moi.
Je me sens moins seule là. Ça
toi
va
aussi,
mieux.
Max?
J'essaie de déblurer maintenant. Juste pour être moins has-been.
Ah, super. Bah, bravo, merci Max. T'es la jeunesse du studio pour aujourd'hui.
Parce que c'est là où t'as les bonus en fait.
Dans les Blu-ray?
Oh, mais dans les DVD. Aussi.
DVD, oui, ouais. DVD ou Blu-ray, oui. Quoique maintenant, je crois qu'ils sont tous en ligne sur YouTube.
Oui, tu peux en trouver pas mal sur YouTube, c'est vrai. Mais bon, donc, la partie tournage, qui est celle qu'on nous montre tout le temps dans le behind the scenes, etc. Comment ça se passe de tourner? Par exemple, quand on joue pour la caméra, Sarah, tu nous disais que c'était un petit peu différent de jouer pour le théâtre. Donc, bah, t'as autour de toi des gens qui font de la comédie au théâtre plutôt, donc on va comprendre de quoi tu parles. Est-ce que tu veux essayer de nous dire un petit peu quelles sont les différences?
Alors, attends, première chose, en fait, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Les gens, ils ont tendance à voir le cinéma, c'est le réalisateur et les acteurs. Mais ça, c'est le haut de l'iceberg. Mais ce que on ne voit pas, ce que le grand public ne voit pas, c'est le travail derrière tous ces gens-là.
Ah, c'est un projet gigantesque.
Il y a l'équipe de caméra dont Max fait partie. Il y a le département artistique qui est énorme et qui est extrêmement important. Et alors là, j'ai envie de pousser un coup de gueule parce que le département artistique, on n'en parle pas assez.
Ouais, mais est-ce que tu veux nous parler d'acting, est-ce que tu veux nous parler du département artistique? Qu'est-ce que fait un département artistique? Vas-y, dis-nous.
Le département artistique, ce sont ceux qui s'occupent des décors. Alors déjà, à la tête, il y a le designer de production qui est celui, en fait, qui donne tout le mood, en fait, du film. Je ne sais même pas comment on dit en français.
L'ambiance,
le design, quoi, du film. C'est lui qui va choisir, ou elle qui va choisir les couleurs pour chaque caractère, pour chaque personnage, voilà. Et après, il y a toute l'équipe derrière. Alors, les directeurs artistiques, ceux qui, jusqu'aux petites mains, qui vont monter les décors, décorer les plateaux, ceux qui vont fabriquer les accessoires.
C'est vrai qu'on les voit de temps en temps dans les behind the scenes, en passant.
Voilà. Et je trouve que c'est quand même très important. On en parlait, voilà, justement, des DVD, des Blu-ray, là. Je trouve que c'est très important que tous ces behind the scenes et ces making-of, là, ils sortent. Et que je pense que c'est important que les gens les regardent. C'est aussi très important, je pense, pour une question de respect et de reconnaissance de l'équipe de tournage. Quand vous êtes au cinéma, par exemple, s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin du générique.
Et pas seulement pour la scène d'après-crédit.
Et pas seulement pour la scène d'après-crédit.
Ouais. Ouais, justement, c'est marrant parce qu'hier, on a été voir Alita, le nouveau film, qui est très bien en passant. Et justement, à la fin, là, on est resté jusqu'à la fin des crédits. Et
du générique,
pardon. Et à la fin, il disait justement qu'il y avait 15 000 personnes qui avaient travaillé sur le film, quoi.
Ouais, 15 000 personnes.
C'est énorme. Ouais.
Mais c'est plus gros qu'une boîte multinationale qui a des bureaux partout dans le monde.
C'est énorme, c'est incroyable. Même pour un court-métrage, hein, Max, nombre de personnes qui travaillent sur un court-métrage, mais c'est terrifiant, quoi. À la limite, on est une cinquantaine, quoi. Facile.
D'ailleurs, moi, j'ai un petit côté fan de Harry Potter totalement assumé, mais du coup, une fois pour mon anniversaire, une de mes amies m'a offert un livre qui raconte en fait tout ce qui se passe derrière la création de Harry Potter, comment se passe la production, les équipes, comme tu disais, en fait, les équipes artistiques derrière qui ont créé des décors époustouflants et super fidèles, etc. Une des choses qui m'ont frappée dans ce livre, c'est que à un moment, il y a le producteur qui disait toute la décennie en fait de production d'Harry Potter, c'était comme des gens en fait qui sont venus comme stagiaire ou tout en bas de l'échelle, comme vous le disiez avant pour le premier film, sont montés en compétences, en responsabilité, etc., jusqu'au septième film où ils avaient atteint leur plein potentiel. Et j'ai l'impression qu'ils ont fait, ils ont géré ça un petit peu comme une entreprise finalement, et ils ont mis en valeur tous ces métiers dans ce livre notamment.
Mais ça se gère comme une entreprise. Ça se gère comme une entreprise. Il y a le producteur et puis il y a le réalisateur, le directeur de la photo, le designer de production, et puis après c'est toutes les équipes qui en découlent, qui en dépendent quoi. Et c'est une entreprise avec une hiérarchie et
Mais d'ailleurs, maintenant, il y a beaucoup d'efforts qui va dans le fait de rendre les génériques intéressants pour que justement les gens restent. Ouais. Parce que les génériques sont tellement longs. Qu'il y a beaucoup de gens.
Ouais. Il y a aussi beaucoup d'efforts qui est mis dans les musiques et notamment dans les thèmes de fin, je trouve. Mm-hmm. Il y a vraiment des titres de fin qui sont absolument exceptionnels, quoi.
Oui, c'est vrai. Et puis, les gens ne s'en rendent pas compte, mais même des fois, juste un générique, certains génériques de films, moi, je n'ai pas là comme ça, mais c'est même Harry Potter, je dirais, mais certains génériques sont tellement bien faits et complexes que les gens ne se rendent pas compte du nombre d'heures qu'il faut pour faire un générique.
Le générique du prisonnier d'Azkaban, notamment, c'est un générique qui montre la carte du maraudeur qui se déplie avec des petits pas qui vont dessus, etc. Ouais. Qui artistiquement et esthétiquement, moi je le trouve magnifique, mais j'ose à peine imaginer le boulot qu'il y a derrière, en fait. Et j'ai pas regardé s'il y avait une équipe dédiée au générique dans le générique. Mais j'en suis quasiment sûre.
Ah si,
Si. Ouais. Bah, c'est tout ce qui est effets spéciaux.
Oui, tous les les graphic designers et tout ça, quoi, en fait, qui travaillent. Le compositeur aussi. C'est quand même. Ouais. Mais il y a des des thèmes qui sont épiques. On entend deux notes, on sait ce que c'est, quoi. Vous prenez Star Wars. Franchement, vous entendez les deux premières notes de Star Wars, mais qui ne sait pas ce qui va venir après, quoi.
Mais même pire, les dents de la mer, c'est de notre.
C'est de notre.
Et donc toi, Sarah, tu travailles un petit peu en tant que à la direction artistique, justement. Alors qu'est-ce que tu fais pour l'artiste,
Alors moi, je suis pas directeur artistique. Je travaille sous la direction du directeur artistique. D'accord. Qui est mon copain. Et de temps en temps, voilà, donc je travaille avec lui quand il a besoin d'un assistant, enfin d'une assistante. Et c'est là que j'ai découvert en fait la difficulté du département artistique. On est en charge de la. Attendez, qu'est-ce que je peux vous redonner comme exemple? L'année dernière, par exemple, on a travaillé sur une série internet qui s'appelle AFK. Je sais pas si.
Cool. Away from keyboard.
Away from keyboard.
Cool.
That's it. Et on a travaillé donc sur la seconde saison. Et voilà, on était trois personnes dans le département artistique, et on était donc Henrik, mon copain qui était le directeur artistique, était chargé de superviser un peu tout. Et puis nous, les deux assistes, on était là pour mettre les décors en place avant chaque scène, bien s'organiser. Excusez-moi. Bien s'organiser pour chaque jour, parce qu'on sait que telle scène va être tournée après telle autre, donc il faut qu'on prépare d'abord tel plateau, ensuite pendant qu'il tourne la première scène, on va préparer le deuxième plateau, et puis voilà quoi. C'est vraiment toute une organisation. On faisait aussi les accessoires, on a fabriqué des flèches, on a fabriqué des cartes, sur des morceaux de cuir, on a fait un tas de choses, quoi.
Incroyable. Ouais. Et j'ai l'impression que c'était peut-être une production de taille moyenne, j'imagine, puisque j'ai l'impression que tu as fait beaucoup de choses différentes, en fait, qui peut-être dans un grand film appartiendraient au département des accessoires, au département des costumes, etc.
Ouais. Bon, ça, c'est aussi l'inconvénient, on va dire, des séries ou des films qui se font sur un micro-budget ou sur des petits budgets. On n'a pas le personnel qu'on voudrait bien, quoi. On fait ce qu'on peut. On est payé, ce qui est déjà une très belle chose. Mais
travail, c'est mieux. Mais c'est marrant, ça fait un petit peu start-up, quelque part.
Oui. La deuxième saison, par exemple, était déjà au-dessus, on va dire, financièrement, que la première. Et on est en train de booster pour pouvoir faire la troisième, quoi. Donc,
Ouais, c'est pour ajouter au niveau de tout ce qui est finance et tout ça, c'est que les gens ne s'en rendent pas compte, mais il y a énormément de courts-métrages, même longs-métrages, qui sont soit produits avec quasiment rien, soit avec très peu d'argent, qui font pas d'argent.
Et c'est très souvent des des productions qui sont financées par le réalisateur lui-même.
C'est ça, soit à perte ou alors des Kickstarter.
C'est vraiment des passion projects.
Et après, si je peux parler des gros films qui font des millions, après, y a toujours les pour et les contre, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte. On dit toujours, les trucs Hollywood, tout ça, ils font des millions, ils ont plein d'argent, mais quand on voit qu'il y a 15 000 personnes qui travaillent sur un film, et toutes les props qu'il faut faire, les...
Bon, et puis c'est un pari, hein, parce que si le film ne fait pas les entrées qu'il faut,
bien sûr.
Certains films coûtent des millions rien qu'à produire. Après, tu peux faire beaucoup plus de millions en termes de bénéfices, mais après, tu peux aussi perdre des millions. Ouais. Donc
est-ce que vous pensez d'ailleurs que ça influence un petit peu peut-être la manière dont les films sont produits aujourd'hui, parce qu'on entend souvent parler et se plaindre du manque de créativité, notamment, qu'on retrouve plutôt justement dans le cinéma indépendant et les passion projects qui sont produits à perte. Mais c'est peut-être aussi à cause justement de ce risque. C'est un tel investissement,
c'est sûr,
finalement.
Ouais, c'est possible.
C'est une des raisons principales qu'ils n'arrêtent pas de faire des remakes, parce qu'ils savent que ça va marcher, parce que Spider-Man a été déjà vu et revu et revu. Donc les gens connaissent le truc. Donc les gens vont probablement aller voir Spider-Man parce qu'ils connaissent Spider-Man. Mais si c'est un nouveau truc...
Mais c'est dommage, parce qu'il n'y a plus rien d'original.
Je suis tout à fait d'accord. C'est ça le problème. C'est qu'ils ne prennent pas de risques pour faire des choses plus intéressantes et différentes.
Mais non, mais je pense que justement, ce risque, tu le retrouves dans les créations un peu plus indépendantes, où les gens ne cherchent pas spécialement à faire des bénéfices. Donc finalement, des films qui ne sont pas un business, quelque part. Mais ce n'est pas forcément un modèle viable. Donc c'est une vraie question.
Ouais.
Enfin bon, on s'éloigne un petit peu du sujet.
Ne parlons pas politique.
Nous ne parlons pas politique, nous ne parlons peut-être pas trop philosophie. Mais du coup, alors, on parlait un petit peu de comment ça se passe un tournage, on a commencé à parler un petit peu de la direction artistique, des costumes et tout. Max, est-ce que tu veux nous parler un petit peu peut-être de ce qui se passe derrière la caméra? Parce qu'il me semble que tu as participé pour un court-métrage, toute la partie prise d'image et tout.
Oui, exactement. J'ai participé à pas mal de courts-métrages, soit faire tout ce qui est lumière, soit juste runner, soit... Et là, récemment, l'année dernière, on a fait un court-métrage. Le budget, c'était 5 000 $, payé de notre poche.
D'accord. C'est du vrai cinéma indépendant, donc.
Exactement. Et c'est beaucoup et pas beaucoup, parce que finalement, on n'a pas payé grand monde, vu que si tu veux payer tout le monde, 50 $ de l'heure, plus ou moins, ça va vite. Et la plupart de l'argent passe dans nourriture, équipement, location de ce que tu as besoin de louer, que tu n'as pas le choix. Maquillage, les choses comme ça. Donc au final, c'est à perte. Et après, je parlerai peut-être plus tard de tout ce qui est festival, quand tu veux mettre ton film dans un festival où tu dois aussi payer.
Ah, intéressant. On en parlera dans toute la partie distribution, avec plaisir. Mais alors du coup, sur ces tournages, qu'est-ce qui t'a intéressé ou passionné quand tu étais derrière la caméra? Quels sont les petits trucs peut-être que tu as vus et que les gens ne soupçonnent pas?
Peut-être même avant de parler de tournage, je pense que... avant même le tournage, il y a tout ce qui est pré-production.
Oui.
Parce qu'en fait, sur un... après, c'est pareil, notre film, on l'a fait... j'ai fait la plupart de tout ce qui était post-production, en plus du tournage, de la pré-production. Donc, vu que c'était fait le soir, après le boulot ou le week-end, on a passé en tout 8 mois pour finir le film, pour un film de 11 minutes.
On va pas calculer combien de temps ça fait par minute, mais ok.
Après, oui, c'est à côté du boulot, donc c'était pas à plein temps. Mais sur ces 8 mois, il y avait 3 jours de tournage. Donc, les jours de tournage, en fait, c'est vraiment pas grand-chose sur la totalité du projet. Même sur des grosses productions, ils tournent pendant 2-3 mois maxi. Et puis après, le reste, c'est 1 an, voire plus de post-production, effets spéciaux, etc. Donc oui, avant même le tournage, il y a tout ce qui est pré-production. Après, tu parlais de tout ce qui est artistique, Sarah. Donc tu dois organiser tout avec... évidemment, écrire le script, ça c'est une chose importante, mais ça prend des tas de versions jusqu'à avoir...
J'imagine que tu prévois un petit peu peut-être tes plans aussi ou...
Voilà, exactement. Donc le fait que le tournage, une fois que tu tournes, tu dois être prêt à avoir absolument tout prêt, parce que t'as que 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et pendant cette journée-là où tu as des équipes, après, évidemment, tout dépend du budget, mais tu peux avoir 10, 15, 20, 100, 150 personnes. bah, tu dois être sûr que tout est prêt, parce que si jamais pendant une heure t'es bloqué parce que la caméra marche pas, bah, tu perds une heure de tournage avec 150 personnes qui attendent.
Et j'imagine que c'est problématique aussi pour des questions de lumière si tu tournes deux jours par exemple ou pas.
Exactement,
en studio.
Voilà. Du coup, la pré-production, c'est très important parce que tu veux pas perdre une minute sur le tournage, parce que c'est ça qui coûte le plus cher, quoi. Donc, la pré-production, c'est être sûr que t'as tout le monde sur le plateau, que tous les artistiques sont prêts, les acteurs sont prêts. Avant même de tourner, il y a des tas de répétitions avec les acteurs jusqu'à ce que tout soit parfait.
C'est-à-dire
que les acteurs, une fois qu'ils arrivent sur le tournage, ils savent déjà leur ligne, ce qu'ils doivent dire et comment les jouer.
D'accord, parce que bah, c'est peut-être une différence entre les planches et... Enfin, moi, je pensais que c'était une différence entre les planches et la caméra, en tout cas. C'est que je me disais que quand on joue sur scène, on répète pendant des mois et des mois une pièce pour pouvoir la jouer du premier coup bien. Mais, ouais. Et je me disais que peut-être derrière la caméra, on avait de quoi refaire. Donc, on pouvait juste arriver au petit bonheur la chance et tenter le coup. Et apparemment, alors il faut répéter.
Après, j'ai pas été sur tous les tournages, mais en général, oui, après, évidemment, sur le tournage, il y a plusieurs prises. Tu vas faire une prise, deux prises, cinq prises, dix prises, etc. Mais il y a tellement de facteurs, la lumière, la caméra, de choses qui peuvent se passer mal et que tu dois refaire une prise, que évidemment, tu veux faire en sorte que l'acteur oublie pas leur texte, sinon tu dois refaire une prise. Et tout dépend de la complexité de la prise. Si tu as tout un mouvement de caméra, des lumières qui changent, tu dois des explosions, n'en parlons pas.
Attends, t'as fait un film avec des explosions?
Non, pas moi, mais dire, s'il y a des choses que tu peux faire qu'une seule fois, évidemment, il faut que ça marche du premier coup.
Oui. Ah oui, c'est vrai, oui.
Donc, certains films où ils font des prises de vue qui durent 5 minutes, tu dois être sûr qu'il n'y a pas de problème pendant 5 minutes, sinon tu dois tout recommencer.
C'est vrai, je pense à notamment des clips musicaux qui étaient pris comme ça, juste
en une seule prise de vue,
avec des décors qui changent et la personne qui bouge, mais la caméra par contre les suit. Et effectivement, c'est tout le monde, en tout cas tous les behind the scenes que j'ai pu voir, disent que c'est extrêmement difficile à faire, et que c'est très stressant parce qu'il faut pas se planter.
Exactement. Oui, donc qu'est-ce que je voulais dire?
Ouais, tu disais qu'il fallait être au maximum prêt quand les acteurs arrivaient pour que tout se passe bien, en fait, au maximum du bien, parce qu'on a un temps limité.
Voilà, exactement. Et après aussi, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que sur une journée de tournage, tu vas filmer, peut-être 20 minutes au total de pellicule, comment on dit. Enfin, évidemment, maintenant c'est digital, mais tu vas passer peut-être 20 minutes à tourner. Tu auras 20 minutes de film à la fin de la journée, quoi, sur une journée entière. Parce que tu vas passer... chaque fois que tu changes de pièce, de scène, tu dois refaire toute la lumière, mettre les acteurs au bon endroit, faire le maquillage, placer les choses au bon endroit, être sûr que t'es bien cadré.
C'est fascinant. Et alors ça, ces décisions, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de ces choses qui sont des partis pris en cinéma, où... le réalisateur ou le directeur de photographie décide que le cadre doit être comme ça et pas comme ça, que la lumière doit arriver d'ici et pas de là. Et toutes ces choses-là, est-ce qu'elles sont faites avant également, ou enfin, est-ce que quand tu arrives sur le lieu du tournage, tu suis un plan qui a déjà été fait, ou est-ce que c'est des choses qui s'improvisent sur le coup?
Ça dépend des personnes, des directeurs de la photographie et puis du budget aussi. Si évidemment c'est très complexe, évidemment c'est tout prévu à l'avance. Si t'as moins de budget, t'arrives sur place, parce que des fois évidemment tu vois, comment on dit, scouting, c'est repérer les endroits en éclaireur. Donc tu sais plus ou moins comment ça va être, mais une fois que t'es sur place, tu dois quand même préparer tout ce qui est lumière et tu peux... Il y a toujours des problèmes, évidemment.
Donc. Oui, si tu as un lieu de tournage que pour la journée, par exemple, tu n'auras pas eu le temps de le regarder avant pour voir si, si les choses vont fonctionner comme tu le voulais.
Finalement. Voilà, donc, en général, tu prépares à l'avance tout ce qui est possible, et puis le reste, tu improvises.
Voilà, mais c'est très marrant, parce que dans la vie, je suis chef de projet, et ça me rappelle beaucoup de ce que tu dis, finalement, c'est que tu essayes de faire un plan et d'avoir des plans B si les choses se passent mal, mais... les choses se passeront toujours mal, mais d'une manière que tu n'avais pas prévue, finalement.
Exactement.
Mais c'est fascinant, en fait, tous les métiers qu'il y a autour des acteurs et du réalisateur, qui sont quand même les personnes qui sont les plus mises sous les feux de la rampe. Et honnêtement, enfin, j'apprends tellement de choses avec vous. Je suis ravie. Mais bon, alors, si on revient un petit peu à peut-être l'acting, Sarah, tu parlais de prendre des cours et d'apprendre à jouer pour une caméra finalement, et que c'était très différent. Qu'est-ce qui est si différent?
Oula, beaucoup de choses. Bah déjà, on ne regarde jamais, à moins d'une requête très spécifique du réalisateur, on ne regarde jamais la caméra.
D'accord.
Voilà, parce que bon, voilà, on ne regarde jamais la caméra, on ne s'adresse jamais à la caméra, on l'ignore,
oui,
tout simplement.
Parce que ça brise le quatrième mur.
Oui, et puis bon, ben voilà, c'est bizarre, quoi, d'une certaine façon. À moins que voilà, le personnage s'adresse directement à la personne sur l'écran de cinéma ou sur l'écran de télé, au public. Mais d'une façon générale, non. Et d'ailleurs, Max, quand on filme un dialogue, la caméra n'est jamais placée du point de vue de l'interlocuteur. C'est
non.
Toujours des...
En général, non.
Non, c'est toujours... La plupart du temps, voilà, 9,9 fois sur 10, c'est au-dessus de l'épaule, quoi, la caméra. Voilà, il y a des angles particuliers et tout. Mais il y a aussi d'autres choses, par exemple, que j'ai apprises en cours, que je n'avais jamais réalisées, et on ne peut pas, de toute façon, réaliser tout seul, je pense. Il faut qu'on nous le dise. C'est que, par exemple, quand on est un personnage à la plage, par exemple, et qu'on regarde un vol d'oiseaux passer au-dessus de la mer, il y a une certaine hauteur à regarder qui ne sera pas nécessairement la hauteur naturelle à laquelle on regarderait des oiseaux si on était vraiment sur une plage à regarder des oiseaux voler.
D'accord.
Voilà.
Donc c'est en fait un peu une illusion d'optique.
C'est
en fait
une
que
illusion
voilà
d'optique, ouais. Ouais. Et c'est vrai qu'au départ, c'est assez déstabilisant, je trouve. Mais ça s'apprend.
Mais c'est incroyable parce que ça doit quand même influer sur le jeu, puisque ça te sort peut-être un petit peu de... Bah, par exemple, quand on fait du théâtre sur planche, on nous apprend à rentrer dans un personnage, les déplacements sont très importants, l'occupation de l'espace et tout.
Oui.
Toutes ces choses qui ne sont pas vraiment présentes quand on joue pour une caméra, finalement.
Voilà. Et au théâtre, je me suis rendu compte quand on a fait notre pièce, là, tous ensemble, on doit porter notre voix le plus loin possible. C'est vraiment les micro-mouvements, le public ne les verra pas, donc il faut qu'on les exagère ou voilà, vraiment qu'on montre ce qu'on fait, quoi. Devant une caméra, le micro-mouvement ou la voix un peu trop élevée, ça va être amplifié, quoi. Donc on
tout
nous
savoir,
apprend
oui.
aussi voilà à ramener nos émotions et notre jeu beaucoup plus bas et beaucoup plus soft que ce qu'on ferait sur une scène, quoi.
Donc beaucoup plus près finalement de la vraie vie.
Voilà. Et c'est pour ça aussi que quand on regarde les tout premiers films qui ont été tournés, les acteurs, il n'y avait pas d'acteurs de cinéma, puisque le cinéma venait d'être inventé. Donc ils ont pris des acteurs de théâtre et les ont mis devant la caméra. Et c'est pour ça qu'on les voit, on a l'impression qu'ils surjouent et qu'ils font des grands mouvements et tout ça. Et en fait, c'est parce que c'est simplement des acteurs de scène qui ont été mis devant une caméra et il n'y avait pas encore le recul qu'on savait ce qui se passait. La caméra attrape beaucoup de choses, en fait.
Oui, c'est beaucoup plus difficile de passer inaperçu.
Oui.
Mais peut-être ce que tu disais sur le cinéma muet, il y a aussi tout le fait que tu ne pouvais pas faire passer l'émotion par les dialogues.
Oui. C'est sûr.
Donc il fallait bien que ça se voit quand même.
Ouais.
Que, ah, t'es très triste.
Oui.
Je viens de faire une grimace dans le studio. Non, mais c'est fascinant, ces différences. Je trouve ça hyper intéressant.
Et tout ça s'apprend. Que ce soit le métier d'acteur ou tous les autres métiers de cinéma, le département caméra, le département artistique, le département maquillage, coiffure, costume, ça s'apprend. Il y a des écoles pour ça.
Donc, tant qu'à faire, c'est un métier comme...
Ce sont des métiers, oui. Ouais. Ouais.
Parce que c'est vrai que souvent on dit « Ah, tu mènes la vie de saltimbanque, etc. C'est pas un vrai métier. » Vous avez dû l'entendre. Enfin, moi, je sais que je l'ai entendu, et pourtant, je sais que je fais plutôt du théâtre comme hobby. Mais vous avez dû l'entendre que c'est pas un vrai métier, non?
Acteur, je sais pas. Moi, je suis plutôt dans.
Moi, oui,
la production.
Je l'ai entendu, mais merci, un grand merci à mes parents et à ma famille, jamais deux. Ils m'ont toujours soutenu.
Ce qui est le plus important, oui.
Ouais.
Tout à fait. Mais c'est le plus important, c'est d'avoir le soutien des personnes qui comptent pour toi, finalement.
Oui.
tout à fait. Est-ce que vous voulez qu'on se fasse une petite musique peut-être pour se remettre de nos émotions?
Toujours. C'est parti. Bah, un grand classique d'Amélie Poulain.
Ah, super. Ah, j'adore celle-là.
Parce que tout le monde aime Amélie Poulain. Si ça veut bien partir.
C'est beau, j'adore cette musique.
C'est Yann Tiersen, je crois.
Oui, ouais. C'est Yann Tiersen. Et je ne sais plus s'il a eu une récompense pour cette bande originale, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il ait au moins été nominé au César,
oh,
voir qu'il ait gagné.
Ouais. Forcément.
Fort enfin, possible.
C'est forcé. Bon, donc on revient à... On a quand même discuté de pas mal de trucs, mais alors il y a beaucoup de choses à dire sur la production de films. Je pense qu'on va devoir faire un deuxième épisode. Mais bon, peut-être... Avant qu'on se quitte, j'aimerais bien discuter avec vous de tout ce qui se passe autour en fait de la production de film. Donc une fois que le film a été tourné, il y a quand même encore beaucoup de boulot. On en a un petit peu parlé, hein, mais le tournage dans les grandes productions, Max, tu disais que ça dure 3 mois, mais qu'après il y a un an peut-être de post-prod après. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait une fois que on a terminé le tournage et que tout le monde a bu du champagne en se félicitant d'avoir fait un super travail? Qu'est-ce qu'on fait après?
Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, il faut regarder tous les rushs et faire le montage. Donc ça, c'est généralement le travail du monteur et du réalisateur qui travaillent ensemble. Donc là, il faut regarder les heures de rush et tout passer un après l'autre. Et puis faire le montage qui prend énormément de temps.
Je me suis toujours demandé d'ailleurs, parce que les youtubeurs parlent aussi d'avoir des heures de rush à éditer et tout. Est-ce qu'il y a des petits trucs quand tu tournes un film pour retrouver tes rushs facilement et savoir quelle scène correspond à quoi et trier en fait tes différentes prises?
Normalement, quand tu filmes, tu as le fameux clap qui te dit quelle scène c'est. Donc normalement, c'est catégorisé, organisé.
Ah oui, oui.
Normalement, si c'est bien fait. Puis après, l'avantage du film, c'est que tu suis le script, donc tu sais que telle scène va suivre telle scène. Mais après, c'est juste organiser quel est le meilleur passage avec quelle est la meilleure prise de vue, le meilleur jeu d'acteur sur 4 ou 5 prises. Il peut y avoir des choses différentes. Et puis après, c'est régler tous les petits soucis d'erreurs de raccord, faire en sorte que d'une scène à l'autre, ça soit raccord, etc.
Et alors, si le monteur et le réalisateur ne sont pas d'accord, le choix final revient à...
Après, ça dépend des relations. C'est bien d'avoir une bonne relation avec son réalisateur. Oui. Sinon, ça peut vite partir en fight.
Mais après,
vu que c'est le réalisateur, c'est le boss. Donc, naturellement, il décide.
C'est vrai. Bon, donc, après avoir trié les rushs, tu les montes, etc. Alors, tu disais problème de raccord. À quoi peut ressembler un problème de raccord, par exemple?
Un problème de raccord, par exemple, si l'acteur a la main droite levée dans un dialogue et puis tu coupes sur un autre acteur qui est en face et tu reviens sur le premier acteur et qu'il a la main baissée, ben, ça ne va pas marcher. Parce qu'il va avoir la position différente. Et c'est là où on voit les bons acteurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent reproduire la même scène encore et encore sans rajouter de choses. En général, tu veux un acteur... Tu demandes à l'acteur de refaire la même chose encore et encore, mais tu ne veux pas qu'il change quoi que ce soit, sinon justement,
tu vas avoir des problèmes de raccord. Ah
ouais. Et là, ça devient compliqué à monter.
Ah oui, non, tu m'étonnes. Tu
essaies de faire en sorte qu'ils disent exactement la même chose qui soit prévue dans le script. Sinon, ça peut être compliqué de raccorder avec...
Donc finalement, une fois que la prise est bonne, tu vas peut-être la refaire 3 ou 4 fois pour identifier peut-être la meilleure, mais il ne faut plus rien changer, quoi.
Exactement. Et en général, tu fais des prises supplémentaires au cas où il y a quelque chose que tu n'as pas vu à la caméra, parce que tu peux avoir une voiture qui passe en arrière-plan, genre une voiture UPS qui passe, et puis tu n'as pas le droit de passer UPS.
Excuse-moi, est-ce qu'on a le droit de citer des marques à l'antenne
Peut-être pas. C'est une marque française, non, c'est ça.
Oh, mais super. Et alors, donc, tu montes le film, tu vérifies que c'est bien la main droite qui est levée, pas la gauche, etc. Mais après, j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire sur, ne serait-ce que, je sais pas moi, éditer les dialogues ou rajouter des effets spéciaux. Enfin, il y a encore plein de choses à faire. Le rush, c'est pas le produit fini.
Après, oui, dépend. La complexité du film, tu as évidemment tout ce qui est fait spéciaux, mais après il y a tout le son à faire pour te régler tous les dialogues, les effets sonores que tu vois pas ou qui sont même rajoutés, qu'on appelle ce qui est folie, genre les bruits de pas, les...
Ah bah oui, forcément.
C'est rajouté, ou quand tu donnes un coup de poing à quelqu'un, tu entends un pfff, this kind of things,
c'est fou.
Toujours rajouté. Et puis évidemment tout ce qui est musique. Et après ça, il y a tout ce qui est étalonnage, des couleurs, faire en sorte que chaque scène... soit exactement même couleur et même luminosité, etc. Et après, tu donnes un look spécifique au film pour qu'il ait l'air... voilà. Genre Matrix, c'est plutôt vert. C'est une espèce de...
Mmh. Ça rejoint un petit peu ce que tu disais, Sarah, sur les mood boards et la direction artistique. Oui. Oui. Je pense que c'est une décision qui appartient à l'ambiance... L'ambiance
oui,
du film,
voilà, c'est très très important parce que si, comme dit Max, si d'une prise de vue à l'autre, encore plus forte raison dans la même scène, et on se retrouve avec une lumière verte sur un angle de caméra et avec une lumière orange sur la deuxième, c'est impossible quoi. Ça ressemble à rien quoi.
Voilà, c'est en fait, le meilleur travail en général, c'est celui qui se voit pas quoi.
Exactement.
Si le son est parfait, la couleur change pas, ben c'est que ça fait du bon boulot.
Ouais, et j'ai souvent entendu dire dans ce genre de métier que les gens peuvent pardonner une mauvaise image potentiellement quand on débute, mais pas un mauvais son.
C'est vrai. C'est vrai que ça, on s'en rend pas compte, mais si le son est mauvais, ça s'entend tout de suite.
On a tourné un court métrage il y a quelques années, c'était pour 48 Hours, et le son était ridicule. Et franchement, ça a tout gâché.
Ouais.
Oh, ouais. Oh, je me sens mal pour le projet. Ça fait mal. Mais écoutez, on va bientôt se quitter. J'aurais adoré parler de plein d'autres choses. Je me sens limite un peu frustrée. Genre, je voulais parler de distribution de festival et tout. Mais bon, on a que 1 heure et quelques. Exactement. N'hésitez pas à revenir. Ça me ferait très plaisir de continuer à discuter avec vous de ça. Peut-être avant de se quitter, il nous reste combien de temps? Il nous reste 2 minutes.
C'est ça, 2 minutes.
Ok, est-ce que vous avez des projets en cours que vous voudriez partager avec nos auditeurs, potentiellement?
Moi j'ai un film là qui est en festival en ce moment, un long métrage, et on doit en sortir, enfin il y en a deux courts métrages qui doivent sortir là dans le courant de l'année. Là.
Super, ils ont des noms ou pas encore?
Oui, le long métrage il s'appelle No Turning Back.
Ok.
Il est, voilà. Et les deux cours, je ne sais pas si j'ai le droit de les nommer parce qu'ils ne sont pas encore sortis.
Bon, ok. Bon, on va essayer de ne pas t'attirer d'ennui. Et toi, Max, ton...
J'ai pas de film en cours. J'ai une pièce de théâtre qui s'appelle Accommodations, qui est en anglais, qui est à Birkenhead Theatre Works du 5 au 13 avril, qui est très très marrant. Donc, je vous invite à regarder sur Internet et venir nous voir.
Bah, super! Bon, écoutez, ça donne envie. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On va se quitter sur peut-être une musique ou juste en vous disant au revoir. Bon.